Une affaire scientifique par René Pujol. Nous étions cinq dans ce compartiment du rapide Bordeaux-Paris, ce qui ne nous assurait qu'un minimum de confort. Quand on voyage en première et qu'on a payé sa place au tarif plein, on trouve injuste de ne pouvoir au moins poser les talons sur la banquette d'en face. On a l'impression de ne pas en avoir pour son argent. Différents coups de sifflet et de trompette nous promirent le départ du convoi. Cette promesse fut incontinent réalisée, et la locomotive commença à faire son métier en soufflant comme un phoque, pour bien indiquer que c'était pénible. Et c'est à ce moment précis que surgit la sixième personne, une femme d'une trentaine d'années. Avec l'égoïste espoir de l'avoir manqué le train, nous la vîmes jaillir d'un souterrain et s'élancer vers notre wagon. Elle bondit sur le marchepied. Malgré les conseils véhéments du sous-chef de gare, faillit perdre son équilibre et s'éclipsa finalement à nos yeux. Une cruelle déception crispa nos visages. La dame n'avait pas manqué le train et elle n'avait pas non plus glissé sous les roues. 3 secondes plus tard, elle envahissait notre compartiment. Envahir est le seul mot juste. Elle écrasa les orteils d'un gros monsieur qui lisait un journal financier, me décocha un violent coup de pied à la cheville, trébucha et s'abattit sur les genoux d'un autre monsieur, fort maigre, celui-là, qui ne s'attendait pas à pareille faveur. La retardataire s'encombrait d'une valise et d'une trousse en peau de porc. La valise eut son point d'impact dans la région abdominale d'une charmante femme blonde et la trousse s'ouvrit en tombant sur le tapis. Les bijoux en ruisselèrent, jetant des feux. Il y avait plusieurs bagues, des bracelets, un collier, des barrettes et des clips. Un assortiment complet. J'appelle le loisir d'apercevoir les diamants et les perles, car la dame récupéra son bien avec une prestesse merveilleuse, referma la trousse, hissa la valise dans le filet et prit ensuite un air tout à fait détaché des choses de ce monde. Elle était jolie, grande, élégante, avec de beaux yeux bleus aussi expressifs que peuvent être des yeux qu'on ne connaît pas. J'étais assis à sa droite. À sa gauche, le gros monsieur s'était remis à l'étude critique de ses logarithmes boursiers. En face, le monsieur maigre était pensif ou peut-être seulement dyspeptique. Enfin, la dame blonde se laissait admirer par son compagnon, tout jeune encore, qui portait d'énormes lunettes rondes sur le nez et peu de cheveux sur le crâne. Dès que nous eûmes franchi la Garonne sur un pont sonore, un contrôleur passa. Nul ne s'opposa à l'accomplissement du devoir de cet employé kilométrique. Il découpa un confetti dans chacun de nos tickets et se résorba comme un fantôme. Puis une espèce d'amiral issu du wagon-restaurant vint nous offrir des places pour le premier ou le deuxième service. J'optai pour le deuxième, mais il me répondit ingénument n'en avoir que pour le premier. Et je l'entendis aussitôt proposer avec la même conviction sur le seuil du compartiment voisin, premier ou deuxième service. La voie ferrée Bordeaux-Paris s'agrémente entre Lormont et Bassin, de 4 modestes tunnels mitoyens. Ils sont si vite franchis qu'on n'allume pas toujours l'électricité dans les wagons. Cette fois, nous bénéficiâmes de l'obscurité dans notre compartiment. Par contre, je constatais qu'une partie du couloir était éclairée. Bientôt, le rapide annonça d'un sifflet strident qu'il retrouvait le soleil. Et voilà que la dame retardataire se mit à crier « On m'a volé mes bijoux !» Nous la regardâmes tous avec stupeur, tandis qu'elle répétait avec désespoir. « On me les a volés, on me les a volés !» Je fus forcé de me rendre à l'évidence. Sur les genoux de la dame, la trousse en peau de porc était béante. Il n'y avait plus dedans qu'une bague d'émeraude que le voleur n'avait pas eu le temps d'attraper. Le grand monsieur financier prit la parole au nom de la collectivité figée. Il faut donc admettre que quelqu'un profitait de la courte obscurité pour ouvrir votre mallette et la vider de son contenu. « Je ne sais pas, monsieur. » répondit la victime avec une flagrante envie de pleurer. « Mes bijoux étaient là. Vous les avez vus. Et ils n'y sont plus. » Le monsieur maigre et triste intervint à son tour. « Est-ce que votre trousse s'ouvre facilement, madame ?»« Comme toutes les trousses, il suffit d'appuyer sur ce bouton. » Il hocha la tête. « C'est bien imprudent, madame, bien imprudent. » Tout le monde approuva, mais cela n'arrangeait rien. Je m'adressai à ma voisine éplorée. N'avez-vous pas senti une pression, un frôlement ? Rien, monsieur. Et vous, dis-je au grand monsieur, Non, pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que vous êtes près de la porte, comme monsieur. Je désignais le monsieur maigre qui devint aussitôt hargneux. Et alors ? Oui, je suis près de la porte, qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le bandit n'a pu envahir le compartiment sans heurter vos genoux, qu'il se touche presque. Par conséquent,
je n'ai pas besoin d'achever ma phrase pour être compris.
Évidemment, sans contestation possible, le voleur du bijou se trouvait dans le compartiment, c'était l'un de nous.
Cette conclusion ne fut du goût de personne.
Chacun épiait maintenant les autres avec une méfiance maussade. Ce n'est jamais avec plaisir qu'on est mêlé à une histoire de ce genre. Le grand monsieur proféra enfin.
« Si c'est une plaisanterie, qu'elle se termine le plus tôt possible. »«
Comment cela » demandai-je.
« Que celui qui a escamoté les bijoux les rende. »
Nul ne bougea. La petite blonde, complètement atterrée, se contenta de protester.
« Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous !»
La victime du vol, dont la défaillance, bien excusable, avait été brève, parla net et claire.
« Je n'accuse personne. Je n'ai aucun soupçon, mais il faut agir. » « Tirez la sonnette d'alarme !»
s'écria impétueusement le monsieur maigre que j'avais cru jusque-là incapable de tant d'initiative.
Le gros financier haussa les épaules.
« Pas de stupidité !»
L'autre, les yeux écarquillés, se vexa. « Comment de stupidité ?»« Monsieur, je vous prie de retirer immédiatement ce mot injurieux. »
Mais le gros ne s'embarrassait pas de courtoisie.
« Ce n'est pas parce que je le retirerai que cela changera quelque chose.
La sonnette d'alarme fera stopper le train. » La totalité des voyageurs sera alertée, le scandale sera plus retentissant, voilà tout.
Sans compter, ajoutai-je, que le gangster pourra éventuellement profiter de l'arrêt pour s'enfuir. Les individus de cette case sont si malins. Le mieux est de prévenir d'abord le chef de train.
Le gros monsieur et le monsieur maigre se levèrent avec un synchronisme parfait.
C'est ça, dit l'autre. J'y vais, dit l'autre. Je les retins sans tarder. Non, messieurs, excusez-moi, mais nous sommes tous suspects, je veux dire, soupçonnables au même titre.
« Pas nous, pas nous !» s'indigna la petite blonde.
« Vous comme nous, madame, » repris-je en souriant. « Il n'importe donc que nous restons groupés jusqu'à ce que notre innocence soit prouvée.
La victime du vol a seul le droit, selon moi, d'aller à la recherche du chef de train. Êtes-vous de cet avis ?» Mes compagnons acquiescèrent et la dame volée nous quitta.
« mon Dieu, que va-t-il nous arriver ?»«
Tu vois que j'avais raison, » s'écria la dame blonde. Le jeune homme l'interrompit. « Tais-toi, cela va s'arranger. »«
Espérons-le, »
gémit le monsieur maigre en levant les yeux comme pour implorer la lampe du plafond.
Sur ce reparut la victime du vol.
« C'est ici, messieurs, » annonça-t-elle. Deux hommes la suivaient. Le chef de train, un morfait embêté, et un monsieur d'un certain âge, bien nourri, dont le menton s'ornait d'une barbiche poivre et sel. Il s'inclina en se présentant courtoisement.
« Inspecteur principal Grevert, de la police mobile. »
L'énoncé de ce titre jeta un froid. On a beau avoir la conscience tranquille, on n'aime jamais l'intrusion d'un policier.
Je scrutai son visage avec curiosité.
Il avait plutôt la tête et l'allure d'un modeste fonctionnaire que d'un détective redouté des criminels. On n'imagine pas Bidoc ou Sherlock Holmes avec un bouc aussi périmé que ridicule.
« Mesdames et messieurs, » dit Grevert d'une voix douce, « le hasard d'un déplacement me permet d'étudier à l'improviste cette intéressante affaire. Elle me paraît à la fois simple et bizarre. Je la résume. Un vol de bijoux a été commis dans un compartiment occupé par 6 personnes.
Ces bijoux, vous les avez tous vus quand madame est montée à Bordeaux.
Ils étaient donc indubitablement dans la trousse. Le vol a été commis sous les tunnels de l'Ormont, c'est-à-dire en quelques minutes.
Les bijoux n'ont pas été lancés sur la voie puisque les glaces des fenêtres n'ont pas été baissées. Un septième personnage venant du couloir n'a pu s'introduire ici. Le voleur est donc théoriquement l'un de vous.
Ce sont bien là tous les faits de la cause, n'est-ce pas ?
Nous approuvâmes tous en hochant la tête comme des magots chinois.
L'inspecteur Grevert se frotta vigoureusement les mains en signe de jubilation.
Parfait.
C'est ce que j'appelle une affaire scientifique.
« Je présume que vous préférez ne donner que le minimum de publicité à cette aventure. »«
Moi aussi, d'ailleurs. Nous allons gentiment débrouiller ça entre nous. »«
Nous serons plus à l'aise pour causer au wagon-restaurant. »«
Nous allons nous y transporter dès que j'aurai examiné succinctement ce compartiment. »
Cet examen qualifié de succinct me plongea dans l'admiration tant il fut rapide et complet. Grevert, sans une hésitation, sonda les boiseries, souleva les coussins et les tapis, secoua les rideaux, glissa une mince tige d'acier flexible entre les glaces et les parois des fenêtres, fit la répartition des valises, chacun de nous emportant ses bagages personnels, s'assura que les filets ne contenaient plus rien, puis nous invita à le précéder. Je remarquai non sans surprise qu'à part la victime du vol, tous mes compagnons étaient dans un désarroi excessif et même incompréhensible. Les mains du grand monsieur tremblaient, et la petite blonde était si pâle que j'eus peur d'un évanouissement. Notre procession parvint au wagon-restaurant sans encombre et sans trop éveiller l'attention du reste des voyageurs. Grevert commença son enquête par l'inventaire des bagages. Il ne découvrit rien dans les valises. Il procéda ensuite à l'interrogatoire de la victime. Elle s'appelait Madeleine Chaumont, elle habitait Paris. Elle s'occupait d'antiquités et venait d'assister à Bordeaux à la vente d'une importante tapisserie Louis XVI. Elle fournit la liste exacte des bijoux disparus. Elle les évalua à 500 000. « Merci, madame, » dit Grevert. « Maintenant, je vais sans doute froisser votre amour-propre, mais, hélas, la police ne respecte pas souvent les règles de l'étiquette. On va vous fouiller. Moi, » sursauta Madeleine Chaumont. « Pourquoi voulez-vous me fouiller ?»« Oh, pas moi !» répondit Grevert. « C'est une femme qui va se livrer à cette opération. Figurez-vous qu'il s'agit d'une visite douanière. »« Mais enfin, je suis volée, non voleuse. »« D'accord, madame. C'est pour cela que votre fouille n'est qu'une formalité. » Madeleine Chaumont, résignée, s'en alla vers le fond de la voiture avec une femme de chambre du train. Je comparus le second devant Grevert. Mon nom, Jacques Darroy. Ma profession, négociant en grains. Mon domicile, Paris. Le motif de mon voyage, l'arrivée d'un cargo de maïs d'Argentine. L'inspecteur me fouilla lui-même en s'excusant, et bien entendu ne trouva aucun bijou dans mes poches. Il terminait ses investigations désagréables quand Madeleine Chaumont nous rejoignit. Elle s'assit pour observer la suite. Grevert se tourna vers la petite blonde. « Madame, à vous, s'il vous plaît. » Elle fondit en sanglots. Mais on ne trouva rien sur elle ni sur son compagnon de voyage. L'un et l'autre avaient l'air fort ennuyés de cette aventure. Le long monsieur Triste fut interrogé le troisième. Il donna son nom d'une voix mal assurée. Pierre Durand, tout simplement. Profession, s'enquit Grevert. Je suis dans les charbons. Motif de votre voyage? Durand avala difficilement sa salive. Eh bien, je prends mes vacances. À cette époque de l'année? Oui, monsieur l'inspecteur. Il mentait mal. Grevert lui fit confesser la vérité. Durand profitait sournoisement d'un voyage de son patron pour en faire un, lui aussi. Quelques jours de bombe, à Paris. Si mon directeur apprend que j'ai abandonné mon poste, il me mettra sûrement à la porte. Je vous supplie de me laisser hors de cause. » Peu intéressé par ce fantoche, j'obtins la permission de m'absenter un instant. Quand je revins des lavabos, le gros homme était sur la sellette et celui-là aussi avait son secret. « J'ai gagné 500 000 francs à la loterie nationale, » expliqua-t-il avec embarras. « Ma femme ignore ce gain. Une femme terrible, monsieur l'inspecteur. Elle me persécute. » Elle me rend malheureux comme les pierres par sa jalousie et par son avarice. Je vais au pavillon de Flore toucher Molo sans qu'elle s'en doute. Pour elle, je vogue en ce moment vers Carcassonne où je traite une affaire de vin. Grevert s'amusait franchement. Et que ferez-vous de votre magot? J'achèterai des valeurs. J'étudie le marché. Je me constituerai une cagnotte pour mes menus plaisirs. Et si jamais les journaux renseignent ma femme, je suis perdu. Elle me reprochera cela nuit et jour jusqu'à ma mort. Tout en écoutant ce pauvre homme, je pensais que l'étude des êtres humains réserve aux plus avertis des surprises infinies. Au départ, les voyageurs assemblés par le hasard dans le même compartiment paraissaient paisibles, normaux, exempts de soucis et de complications. Et il suffisait d'un incident pour que derrière la façade écroulée, derrière les masques tombés, on découvre des fantoches dansant au rythme de passion mesquine et malpropre. L'inspecteur Grevert avait fini d'interroger les 6 personnes. À mon avis, son enquête n'avait pas avancé d'une ligne. Pourtant, il était visiblement content de lui. « Je n'ai plus qu'une question à poser, dit-il. Madame Chaumont, êtes-vous assurée contre le vol ?»« Heureusement, oui, monsieur l'inspecteur. Si vous ne récupérez pas vos bijoux, vous serez indemnisé par la compagnie d'assurance. » « Certainement, mais cette solution ne me satisfait pas du tout. La plupart de mes bijoux sont des souvenirs de famille, et j'attache un prix bien supérieur à celui que fixeront les experts.
« Je comprends votre état d'esprit, madame, »
répondit Grevert avec déférence. « Rassurez-vous, vous retrouverez vos bijoux. »«
Je voudrais avoir votre optimisme, »
soupira Madeleine Chaumont.
« Vous le partagerez bientôt. »«
Madame, soyez assez aimable pour rester ici avec moi. Les autres peuvent regagner leur place, sauf monsieur. » »«
Le monsieur, c'était moi. »
Nous demeurâmes donc trois seulement dans le wagon-restaurant. Madeleine Chaumont, l'inspecteur et moi. Trois ou quatre minutes, longues comme des siècles, l'inspecteur se promena entre les tables, la tête penchée, les mains au dos. Puis il se planta devant moi, me regarda bien en face.
« Pas mal combiné ? »
dit-il.
« Quoi donc ? »
demandai-je.
« Le vol sous le tunnel. »«
Ah ! » fis-je interloqué. « Mais pas trop parfait, trop scientifique. Un vol ne peut pas ressembler à un miracle. Celui-là y ressemble trop. »
Il s'assit à la même table que nous. « Voulez-vous que je vous le raconte ?»«
Mais oui, parlez donc !» s'exclama Madeleine Chaumont avec impatience.
« Ne vous énervez pas, madame, vous allez tout savoir. »
Et il s'expliqua sans hâte, d'un ton de conférencier ou de professeur. Pour réussir l'opération avec un minimum de risque, il faut deux acteurs, ni plus ni moins. La dame se précipite dans le compartiment à la dernière minute. Elle est affolée. Elle laisse maladroitement choir sa mallette à bijoux qui s'ouvre avec opportunité. Tout le monde voit, clair comme le jour, que la mallette contient des diamants et des perles en vrac. Parmi ce tout le monde est le complice. Il est arrivé en avance, lui. Le premier. Son travail préliminaire consiste à cisailler le fil d'éclairage ou, s'il ne le trouve pas, à supprimer la lampe. De cette façon, sous le tunnel, le compartiment est obscur. C'est bien cela, hein ?
Madeleine Chaumont et moi échangeâmes un coup d'œil ahuri et ne répondîmes rien.
D'ailleurs, Grevert continuait imperturbablement. Après le tunnel, la dame annonce à grands cris le larcin dont elle vient d'être victime. Les bijoux ne sont plus en effet dans la mallette, ils sont enfouis dans la poche de la prétendue volée. Le complice s'arrange pour que personne ne sorte du compartiment à l'exception de la dame qui va quérir le chef de train, après avoir fait un petit stage au lavabo. Juste le temps de suspendre les bijoux dans un sachet au barreau de la fenêtre. Ce serait miracle si quelqu'un apercevait ce sachet ballottant à l'extérieur. Le reste est enfantin. Enquête du chef de train, assisté du policier de service. La dame et le complice sont fouillés en vain comme les autres. Les bijoux ont réellement disparu. Procès-verbal en bonne et due forme. La compagnie d'assurance n'a plus qu'à payer. C'est ce qu'elle fait après les formalités d'usage.
Par malheur, l'inspecteur principal Grevert, qui n'est pas un policier ordinaire, voyage souvent sur cette ligne. Il se trouvait aujourd'hui dans ce rapide, et il a résolu la série d'énigmes qui paraissent indéchiffrables. J'ai quelques qualités, je m'en flatte.
Madeleine Chaumont riposta les rotins.
Vous avez surtout de l'imagination. Vous vous figurez que j'ai joué cette comédie.
Oui, madame, dit Grevert avec son insupportable politesse,
que j'ai suspendu les bijoux à la fenêtre des lavabos.
« Oui, madame.
Dans ce cas, allez les chercher.
Non, madame.
Pourquoi non ?
Parce qu'ils n'y sont plus.
Où sont-ils alors ?
Dans la poche de monsieur,
qui les a repris après avoir été fouillé. Il a pensé qu'on ne le fouillerait pas deux fois.
Monsieur, rendez-nous le précieux sachet. »
Je jugeais superflu de financer plus longtemps et je déposai le sachet sur la table.
« Imbécile ! » ragea Madeleine.
« C'est mon opinion. »
soupirai-je. Je suis un idiot.
Monsieur Grevert est d'une habileté à laquelle je me plais à rendre hommage.
Grevert me remercia d'une courbette.
Mais, repris-je, il s'est trop pressé. Il aurait dû patienter jusqu'à ce que Madeleine Chaumont fasse sa déclaration de vol à la compagnie d'assurance.
Pourquoi ? Demanda Grevert.
Parce que Madeleine Chaumont est ma femme légitime. Je l'ai épousée l'an dernier.
Je suis son mari devant la loi.
Et alors ?
Alors ? Comme le code n'admet pas le vol entre époux sous le régime de la communauté,
le plus subtil juriste ne peut nous inculper. Où avez-vous retrouvé les bijoux ?
Dans ma poche.
Dans la poche du mari de madame.
La justice n'a rien à voir dans cette histoire de ménage.
Je souriais, et Madeleine aussi.
Grevert caressait rêveusement sa barbiche.
Bon,
conclut-il sans amertume,
vous m'avez eu, c'est d'accord.
Mais je vous aurai aussi.
Et ce jour-là, ma chère femme et moi.
Nous l'attendons encore. Peut-être demain, peut-être jamais. »
Ainsi s'achève une affaire scientifique par René Pujol.